Bonsoir, là je vais me lancer. Merci à tous d'être présents pour cette nouvelle session de Thèse en poche. Et merci à Joanne d'être venu nous présenter ton travail. Moi je me présente, donc je suis Thibaut Raginel, je suis chef de clinique de médecine générale ici à l'UFR Santé de Caen. On m'a demandé de modérer un petit peu les échanges après la participation de Joanne. Et je te laisse te présenter.
Bonsoir à tous, merci Joanne pour la présentation, merci à BU Santé pour cette nouvelle édition. Donc moi c'est André Rabieza, je suis également chef de clinique en médecine générale au sein de l'UFR Santé et je vais co-modérer cette session. Du coup on va commencer par une première question. Si j'ai bien suivi, la thèse se fait sur la période entre 2012-2015. La question est, est-ce qu'il y avait de l'éducation thérapeutique avant 2012 ?
Donc le programme a été autorisé en 2015. Non, il n'y a pas d'éducation thérapeutique avant 2012. Non. Okay. Ça se mettait en place, les programmes se mettaient en place. Attends, je réfléchis. Je pense que ça a dû commencer parce qu'il y a la réflexion. Si, ça s'est commencé. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que pour ma thèse, j'ai animé le programme de l'atelier négligence spatiale unilatérale et j'ai récupéré les données de ma collègue qui avait animé antérieurement les trois autres thématiques. Donc, je pense que ça avait déjà commencé, en effet.
Moi, je me demandais, tu nous parles de l'évaluation, du coup... des programmes d'éducation thérapeutique par les patients et par les aidants. C'est effectivement difficile d'évaluer et d'avoir une échelle validée pour évaluer ces programmes. Et du coup, moi, en lisant ton travail et en t'écoutant, je me disais, est-ce qu'on peut vraiment arriver à établir une échelle d'évaluation de ces programmes quand on prend en considération finalement que les programmes ils vont partir du bilan établi avec le patient ? Qui vont être au maximum individualisés et adaptés à sa pathologie. Et qu'après, finalement, l'évaluation du programme dans le service rendu au patient va aussi dépendre de son bilan initial et de ce que lui, il en attendait. Du coup, à ton sens, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on essaye d'avoir une évaluation à chaque fois plus qualitative des programmes et adaptée aux patients pour adapter nos programmes ? Ou est-ce qu'on pourrait, toi qui as une meilleure expertise du domaine, réussir à probablement, peut-être, quand même avoir des évaluations quantitatives sur la qualité des programmes.
Alors, c'est la vraie difficulté, l'évaluation. Et en fait, on est poussé par... parce que s'il n'y a pas, malheureusement, de chiffres, eh ben, c'est dur après d'obtenir des financements. Et donc, on est un peu dans cette problématique de... vous ne montrez pas de bénéfices, donc il n'y a pas de chiffres, donc pas d'argent pour financer ces programmes. Donc on est tiraillé d'un côté en disant on n'arrive pas. Je pense qu'on trouve pas un critère, mais en effet, je pense que l'idée ça serait plutôt dans le qualitatif et dans la discussion, mais tout ça c'est pas chiffrable. Et donc on est partagé les échelles ne sont pas adaptées. Est-ce qu'il y a vraiment un critère qualitatif? Et pour certains, s'il n'y a pas de qualitatif, eh ben il n'y a pas d'effet. Donc c'est difficile de... à l'heure actuelle, il n'y a pas de critères qualitatifs. Je pense que, en effet, ça reste... l'idéal serait certains disent dans les ouvrages que ça serait plutôt des entretiens approfondis avec le patient pour voir un peu son ressenti et pas de critères chiffrés. Mais voilà, on arrive à... on se confronte à certaines personnes qui disent mais concrètement, il n'y a pas d'effet. Et donc c'est difficile, c'est une vraie difficulté. Pas de vraie réponse, mais en effet, c'est une vraie problématique, cette évaluation. On est de plus en plus dans l'ère de dire qu'il faut apporter des résultats chiffrés dès que vous mettez en place quoi que ce soit, et pour avoir poursuite de financement, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas de poursuite de financement. Et donc comment on fait ? Là, avant, on avait un temps de thérapeute financé, finalement, maintenant, on n'a plus de temps de thérapeute financé. Donc il faut composer, il faut s'adapter, et c'est difficile. Mais on poursuit parce qu'on se dit qu'il y a un réel intérêt, on n'arrive pas à trouver de critères chiffrés. C'est comme les patients diabétiques, on sait très bien que les problèmes d'éducation thérapeutique, ils ont un vrai intérêt chez nos patients diabétiques, sauf que le critère de l'hémoglobine glyquée, ça ne modifie pas l'hémoglobine glyquée. Ce n'est pas pour autant que c'est pas un vrai bénéfice pour les patients. Mais pour l'instant, il n'y a pas de critères chiffrés. Et c'est un vrai problème pour nos tutelles parce qu'ils veulent... si vous faites ça, c'est pourquoi, en fait.
Tu parlais de thérapeute. Est-ce que tu peux nous préciser, puisque la rééducation est un travail d'équipe, est-ce que tu peux nous préciser quels étaient les intervenants lors des séances d'éducation thérapeutique ?
Alors, je vais partir sur la négligence parce que je l'ai co-animée avec une neuropsychologue. Là maintenant, c'est une neuropsychologue et une ergothérapeute. On a trouvé pertinent que ce soit ce binôme qui anime ces ateliers cognitifs. Pour la mémoire de travail et la mémoire épisodique, c'est pareil. L'atelier Qu'est-ce qu'un AVC a été réservé pour au domaine médical. Et donc, c'est deux médecins qui co-animent cet atelier.
D'accord. Donc, c'est toutes les professions autour de la rééducation qui participent, du coup.
Ouais, tout à fait.
En fonction de. En dehors, les aidants, du coup, ont participé au programme d'éducation, ont participé aux séances. Quelle est leur place en dehors des séances ? Est-ce qu'ils participent à d'autres phases de la rééducation ?
Alors, on trouve que la place de l'aidant, elle n'est pas facile au sein de la rééducation. Et bien sûr, ils ont une place, mais par le biais des séances d'éducation thérapeutique, ils ont exprimé qu'ils ont pu avoir une parole, un temps de parole différent. Et d'ailleurs, j'ai noté que certains aidants sont venus sans le patient. Des patients qui avaient des troubles, par exemple des fonctions exécutives, des troubles cognitifs vraiment très sévères, l'aidant est venu seul à ces ateliers pour comprendre et savoir un peu gérer un peu au quotidien. Donc je trouve que la place de l'aidant, elle est intéressante, elle est bien sûr présente en dehors et en rééducation, mais là, l'aidant, il est vu différemment et il a une place et c'est vrai qu'ils apprécient particulièrement cette posture sur ces ateliers qui sont ils sont un peu à l'écart de la rééducation, mais ils sont quand même liés, donc c'est intéressant.
Et est-ce que ça les a libérés un petit peu au niveau de la parole, au niveau de la façon de leur qualité de vie à eux aussi, ou pas ?
Alors, ce qui est difficile, c'est que l'échelle de qualité de vie...
Plutôt leur fardeau, du coup.
Alors, leur fardeau, mais on avait étudié aussi la qualité de vie chez les aidants. Donc, le fardeau, moi, je trouve que l'échelle, je ne sais pas si l'échelle de Zarit, comme j'ai dit un petit peu les limites, je ne sais pas si c'est vraiment une échelle optimale. Sur la qualité de vie, je trouve que le recall, c'est difficile parce que vous avez un événement de vie difficile la veille. Vous allez cocher que vous n'êtes pas l'échelle de recall, ça, est-ce que ça reflète vraiment la qualité de vie et l'intérêt, l'impact de l'éducation thérapeutique sur la qualité de vie, je ne sais pas vraiment. Donc, je sais qu'ils ont été satisfaits, on les revoit à distance et c'est vrai qu'ils apprécient particulièrement ces temps d'échange. Ils apprécient beaucoup aussi, parce que ce qui n'est pas le cas en rééducation, les temps d'échange avec d'autres patients. C'est le seul moment où ils peuvent échanger avec d'autres aidants, avec d'autres patients. Ah oui, ça s'est passé comme ça. Et ça, ils apprécient beaucoup. On essaye de guider un peu l'entretien, mais c'est vrai que c'est les gens qui... On laisse vraiment s'exprimer le patient et aidant.
D'accord.
Et du coup, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être utile, finalement, d'avoir de l'éducation thérapeutique des aidants, vraiment une éducation thérapeutique dédiée ? Dans certaines pathologies où effectivement la prise en charge par les aidants elle est très lourde auprès de leurs proches.
Alors je pense que c'est vraiment important. On le voit dans d'autres pathologies type démentiel, démence d'Alzheimer, et ça se met en place et on se trouve tous en difficulté parce que les aidants gardent souvent une activité professionnelle et on a des difficultés sur le plan de les faire venir, ou c'est des aidants des fois qui ont des enfants en bas âge, donc ces difficultés-là aussi qu'ils puissent se rendre disponibles. Donc c'est pas le manque d'envie, c'est le manque aussi d'organisation des difficultés, mais je pense vraiment que oui. C'est ce que je disais, des séances dédiées aux aidants, ça pourrait être vraiment intéressant, en effet. Après, c'est toute l'organisation qui est derrière à mettre en place, mais je pense que c'est une idée, en effet, intéressante, qui se met en place, oui, pour la pathologie d'Alzheimer, et que je trouve pertinent, mais il y avait une limite, voilà, c'est que les gens, ils avaient des difficultés à recruter les aidants. Parce que l'aidant, il est là pour, des fois, être à temps plein avec le patient. Donc, il y a certains qui vont dire, bah oui, mais qui est-ce qui va s'occuper du patient pendant que moi, je vais aux ateliers ? C'est des vrais... Donc, je pense qu'il y a des réflexions à je pense qu'ils sont en train d'être... J'avais lu des choses sur... dans le cadre des démences, en effet. Mais je trouve que ce serait vraiment pertinent, en effet.
Et tu nous parlais de l'hémoglobine glycée dans le diabète comme critère. Dans le diabète, on entend de plus en plus parler aussi des patients experts, dans le cadre des formations, de formation de patients en ETP, aussi des formations de soignants. Est-ce que dans le cadre des troubles dont tu nous as parlé, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager aussi une place pour des aidants experts ? Tu pourrais intervenir ?
Alors oui, alors déjà dans le cadre des patients experts, on en a aussi. On a des patients qui sont très à distance de leur accident vasculaire cérébral et qu'on a fait participer. Et justement, dans le cadre de la négligence spatiale unilatérale, c'était aussi une ouverture. Et il y a un patient qui était à 15 ans de son accident vasculaire et qui a pu apporter son retour et son vécu. Et donc, c'était très intéressant. Dans le cadre des aidants, en fait, ça se met en place aussi. Il y a un DU sur les... Un DU qui, je sais que mon docteur Jouquet qui participe, et je sais qu'on a fait participer un aidant à titre, il n'y avait pas le titre d'aidant expert, mais je pense que ça peut être intéressant aussi, en effet. Oui, ça peut être envisagé. Okay. Et en soi, je pense que la participation de ce patient, cet aidant au DU, bah, je pense que c'est un peu, il avait un peu ce rôle-là au final. Mmh.
Tu as une plus-value du coup d'information.
Ça donne une plus-value et puis ça valorise aussi la personne. Je pense que c'est intéressant en effet. Oui, tout à fait. C'est une idée.
D'accord. Je ne sais pas si dans l'assistance, c'est des gens qui...
Oui. Le micro va arriver.
Merci pour la présentation. Moi, j'avais juste une question pratique et une autre, on va dire, qui en découle. C'était le délai, en fait, entre la première séance et le moment de l'AVC, c'est environ 20 mois. Donc, je me posais la question si vous aviez essentiellement des patients qui étaient en hospitalisation à temps partiel, de ce service-là, et si vous aviez des gens qui revenaient, en fait, en externat, finalement, qui revenaient exprès pour l'atelier.
Alors, il y a des deux tout. Il y a des gens qui venaient aussi, le patient qui était très à distance pour la négligence spatiale, il est revenu en externe. Alors, se pose aussi l'autre problématique de la prise en charge des transports, pour des gens qui, des fois, ont perdu la motricité. Mais donc, il y avait, des gens qui venaient d'hospitalisation à temps complet, à temps partiel, des gens d'extérieur. Il faut savoir que, pour les troubles cognitifs, mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique trop tôt, les patients, ils n'ont pas expérimenté les difficultés. Les gens qui sont encore... c'est important qu'ils se rendent compte de comment ça se passe, les difficultés qu'ils peuvent ressentir. Si on va faire un atelier sur la négligence et que pour eux, déjà, ils n'ont souvent pas conscience de leurs troubles, mais qu'en plus, ils n'ont pas expérimenté à la maison qu'il y avait des difficultés, ça ne va pas leur parler. Et donc, ça ne va pas y avoir un intérêt franc. Donc, on se laisse un peu le temps, qu'ils expérimentent, qu'ils voient à la maison, au moins qu'il y ait eu des week-ends de thérapeutique, et qu'ils puissent évoquer, ah bah oui, là, je me suis rendu compte que c'était difficile, ma famille m'a dit qu'en effet, j'étais comme ça. Donc, on se laisse un peu de temps, et en effet, c'est pour ça qu'il y a ce délai assez, assez long.
La deuxième question, vous y avez déjà un petit peu répondu, c'était de savoir... Puisque si c'est assez hétérogène dans le délai, finalement, quelqu'un qui est là après 2 mois après son AVC ou 20 mois après son AVC, effectivement, il n'a pas la même conscience, on va dire, des difficultés. Et je me posais la question de ce que ça a apporté au groupe comme limite ou comme apport, au contraire, justement, pour le groupe. Il y avait aussi déjà une réponse sur pourquoi on choisissait finalement qu'il y ait un certain délai d'attente.
Après, c'est une richesse, je trouve que d'avoir des patients qui sont à différents stades, ça valorise le patient qui est à distance parce qu'il va faire part de son expérience vis-à-vis du patient qui est plus proche. Donc, on travaille sur l'estime de soi. Donc, c'est satisfaisant, même sur le questionnaire. Il va savoir répondre et il va savoir évoquer les astuces qu'il a mis en place au quotidien. Et la personne qui n'a pas encore peu expérimenté, ça peut lui faire écho également. Ou des gens qui sont aussi à proximité, des fois on peut, entre guillemets, ces séances peuvent permettre de ce qu'on appelle lever la nosognosie, ça peut être faire prendre conscience des difficultés lors de ces séances en fait. Donc c'est riche en fait, le groupe d'avoir un mélange, je trouve que c'est une vraie richesse.
Merci Joanne pour cette très belle présentation. Bon, tu sais qu'on a des sujets de recherche très très proches et j'imagine que tu es au courant qu'en août 2015, il y a une circulaire ministérielle qui est sortie et qui demande aux neurologues qui revoient leurs patients qui sortent de l'UNV 3 mois après l'hospitalisation en consultation normalement pluridisciplinaire. Donc ça c'est ce qu'il y a sur le papier dans la circulaire. En pratique, pour l'instant, il n'y a rien du tout parce que pas de financement. Mais comment tu peux voir tout ton travail intégré dans ces consultations pluridisciplinaires et le rôle du neurologue aussi, parce que tu ne parles pas du tout du neurologue, du médecin traitant et également des associations de patients comme par exemple France AVC Basse-Normandie qui peuvent être d'une utilité assez importante.
Mmh, tout à fait. Alors ça se met un peu en place quand même. Il y a des choses qui... Ça commence quand même et c'est intéressant et je trouve que c'est bien. Enfin, on voit qu'il y a des réunions qui se mettent en place avec les neurologues, avec les rééducateurs. Il y a une infirmière dédiée qui rentre dans l'équipe. Donc, c'est vraiment porteur et je trouve que c'est vraiment intéressant. Après, moi, j'aimerais bien m'inscrire dans... Enfin, personnellement, après, je souhaite m'inscrire là, dans toute cette voie-là, donc je participe un peu aux réunions et en effet, je pense qu'il y a plein de patients qui passent les mailles un petit peu, qu'on ne revoit pas forcément, qui ne sont pas hospitalisés. C'est ces patients-là qu'on va essayer de revoir en consultation pour voir s'il y a des difficultés ou pas. Non, je pense que ça, c'est vraiment important et vraiment intéressant. Et si je m'inscris un petit peu là-dedans et je trouve que la place... Alors, je n'ai pas encore expérimenté, j'ai voulu participer. La problématique pour moi, c'est que voilà, les lits ont été transférés à Onet-sur-Odon. L'activité se situe au CHU. Alors, il faut être un petit peu... et le temps de travail, et voilà. Donc, ça va s'organiser. Et je pense que c'est très riche. Je sais que voilà, il y a Julien Coget qui est dessus, Sophie Guettier, et Céline Joly, l'infirmière, et le docteur Jocky, et plein d'autres qui gravitent autour. Donc, je pense que c'est vraiment porteur, c'est vraiment l'avenir. Et j'espère m'inscrire aussi là-dedans pour la suite.
Courte deuxième question. Les patients que tu as inclus dans ton étude, AVC, ischémique, c'est hémorragique, ils sortaient tous de l'UNV, où ils sont censés avoir en sortant quelques notions, on est censé faire un petit peu hein, d'apprentissage sur c'est quoi l'AVC, le traitement, pourquoi c'est important de le prendre, etc. Ou alors est-ce que c'est des patients qui venaient d'autres filières que l'UNV et qui partaient vraiment de zéro au niveau connaissance de la maladie, du traitement, etc.
Je pense dans ta question, alors c'est des patients qui venaient de l'UNV, je pense pour la plupart. Mais c'est une réflexion, il y a une réflexion sur est-ce qu'on ne met pas en place des séances d'éducation thérapeutique à l'UNV. Or, à l'UNV, l'AVC, c'est un événement de vie brutal. Les patients se retrouvent en l'espace de peu de temps, hémiparétiques, hémiplégiques, difficultés pour articuler, difficultés pour parler. Est-ce que c'est le bon moment pour mettre en place, est-ce qu'ils sont à même d'entendre à ce moment-là vous allez avoir des traitements toute la vie sur, avec ça, ça et ça. Et les facteurs de risque cardiovasculaire, vous allez fumer. Alors, je ne sais pas si... C'est vrai que moi, en passant l'UNV, je ne l'ai pas fait. Parce que, en effet, ça serait... J'ai pas eu l'occasion. Et puis, c'est vrai que je me pose la question si les gens entendent à ce moment-là. Parce que le séjour à l'UNV, il est très court. Enfin, en théorie, il est court, quoi. Mais bon, c'est un questionnement actuel. Hein. Et il y en a qui souhaitent hein, mettre en place des séances, justement, dès l'UNV. C'est un questionnement et c'est en réflexion. Il y a du pour et du contre, je sais pas exactement. Après, il faudrait peut-être expérimenter et voir. Pourquoi pas hein. Mais c'est en cours de réflexion, en effet.
Merci.
Juste, Joanne, pour rebondir sur la question qui vient d'être posée et sur l'ouverture de ta thèse, comment tu vois l'intégration du médecin traitant dans le parcours d'éducation thérapeutique ?
Alors, voilà, en lisant pas mal d'écrits, je trouve que le médecin traitant, c'est une personne clé parce que c'est lui qui va revoir le patient. Et je trouve qu'on ne l'intègre pas assez. Et je trouve qu'il y a un vrai travail à faire avec le médecin traitant. Or, la réalité, c'est qu'ils sont écrasés par, je pense, toute la paperasse administrative et sur, par plein de choses. Et donc, arriver à les... l'idée, enfin, ce que je disais, je ne sais plus si je l'avais marqué, c'était que les alléger sur le plan administratif pour qu'ils puissent permettre d'accéder et qu'ils puissent plus prendre part, je pense, à tout ce programme. Je trouve qu'il manque, je trouve que ce serait vraiment important qu'ils soient plus, parce que quand ils sont au courant déjà, les sensibiliser à ces programmes, parce que je pense qu'il y en a plein qui sont pas, ils n'ont pas connaissance, donc maintenant il y a une lettre d'adressage systématique, je trouve que c'est important que les médecins traitants soient au courant, donc à chaque atelier thérapeutique, à chaque mise en place de programme pour un patient, il y a une lettre adressée au médecin traitant, de manière systématique, pour l'informer. Mais je pense que oui, c'est un travail aussi à faire pour envisager des réunions ou les sensibiliser. Ça me paraît primordial.
Et toujours pour revenir sur la question qui vient d'être posée, quelle est la place, comment tu vois la place des associations ? Est-ce que par exemple, vous pourriez participer au financement ? Est-ce qu'ils pourraient aider tu viens de parler d'une aide d'adressage d'un lien avec les médecins traitants. Quelle serait leur place ?
Donc j'ai participé à plusieurs forums et c'est vrai que France AVC a un vrai poids et c'est très intéressant. Après sur le plan financier, je sais pas du tout. Hein.
Juste pour répondre à ta question, André, je suis membre fondateur du conseil d'administration de France AVC Basse-Normandie et on a environ 3000 euros dans les caisses. Du coup, non. L'association France AVC au niveau national et encore moins au niveau régional n'a pas de sous pour pouvoir financer ces choses-là.
Merci pour la réponse.
Et sur l'intégration du médecin traitant, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de les inviter pour leur présenter les programmes, de leur proposer une place éventuellement dans les programmes ?
Moi, je trouve que c'est une vraie... ça peut être intéressant, en effet. Je pense que c'est comme ça... je pense que ça peut être intéressant de leur présenter et de faire du lien avec eux. Et en effet, oui, pourquoi pas.
Parce qu'on reçoit bien les comptes rendus. Votre patient va être inscrit dans thérapeutique.
Oui, mais ça ne suffit pas, bien sûr.
Il a suivi le programme d'utilisation thérapeutique, il en est où Mais après, en tant que médecin traitant, si on ne nous invite pas, je reçois des comptes rendus du CHU, de neurochir, de cardio.
Non, tout à fait.
Je ne vais pas m'inviter à la visite. Du coup, effectivement, si je ne suis pas invité, je vais pas forcément me sentir légitime pour découvrir le programme d'éducation thérapeutique proposer d'y participer.
Non, c'est une idée. Il y a plein de choses là qui se mettent en place. Hein, les consultations post-AVC. Je pense que la place du médecin traitant, je pense que c'est vraiment important et il faut qu'on réfléchisse en effet sur un premier pas, je trouve, déjà d'informer, de dire bon bah votre patient il a participé, mais en effet après c'est présenter le programme, en effet, pour qu'ils aient connaissance et qu'ils puissent après aussi avoir l'idée de parce qu'après le médecin traitant peut être le prescripteur d'un programme d'éducation thérapeutique, donc s'il connaît le contenu c'est beaucoup plus simple en effet.
Et là, dans ces programmes, il peut être prescripteur ?
Oui. Oui, c'est l'idée, ça serait... Il y a des feuilles... il peut nous adresser des patients, ouais.
Et il peut faire comment ? S'il veut y accéder,
Là, pour l'instant, je dis qu'il peut être prescripteur. Pour l'instant, il y a des programmes par le biais des RET sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est en place.
Sur l'obésité ?
Sur l'obésité, le diabète, insuffisance cardiaque. Après, je pense que c'est plutôt adressé je me suis avancée, je pensais à ERET, l'espace régional d'éducation thérapeutique qui met en place le facteur de risque cardiovasculaire. Je pense que là, le médecin traitant, quand il voit des troubles cognitifs persistants et difficultés, l'idée c'est d'adresser le patient à une consultation de MPR, de médecine physique et de réadaptation, au plus proche, soit au CHU, soit au Nez-sur-Odon. Là, pour l'instant, les troubles cognitifs sont plutôt pris en charge donc, par au Nez-sur-Odon. L'UMPR a pris quelques thématiques en charge. Le CHU réfléchit sur d'autres thématiques aussi. Donc voilà, l'idée, c'est de faire des pôles un petit peu pour adresser, la patiente elle a telle problématique, et on va l'adresser ici, on va l'adresser là. Donc voilà, c'est un peu ça, les perspectives d'avenir.
D'accord, donc spécialiser les centres avant de dire au médecin traitant, vous pouvez adresser vers tel ou tel centre.
Spécialiser les centres, après, je pense que comme on essaye vraiment de créer un réseau normand, on peut s'adresser les patients après aussi. Voilà, si tu adresses quelqu'un à Nez-sur-Odon, après, si c'est pour prévention des chutes ou activité physique, je peux dire ça sera plus pertinent que ce soit à l'IMPR d'Hérouville. Donc après,
Et donc, on continue à orienter d'abord en rééducation, et c'est plutôt le centre de rééducation qui va orienter vers le programme d'éducation
pour
thérapeutique.
Pour l'instant, l'instant, oui.
Et justement, quel est, dans les autres centres, notamment l'IMPR et le CHU, donc qui sont spécialisés sur d'autres thématiques de rééducation, quelle est la place de l'éducation thérapeutique dans ces centres?
Donc l'IMPR d'Hérouville a bien développé, et ce qui marche bien, c'est la reprise d'activité physique après un AVC. Ça, c'est une thématique qui marche plutôt bien. Il y a une thématique qui s'appelait installation manutention du patient qui se fait un peu moins, prévention des chutes aussi, qui avait été fait à l'IMPR d'Hérouville. Au CHU, une des conséquences physiques, c'était les troubles vésico-sphinctériens. Or, on se rend compte que, avec le temps, là, il y a une prochaine réunion de comité de pilotage, on se rend compte qu'avec les référents médicaux sur les troubles vésico-sphinctériens, que les ateliers ne seraient peut-être pas forcément pertinents. Donc, on va en train de réfléchir sur une autre, se dirige sur une autre thématique au CHU. On est en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire peut-être que le CHU pourrait s'orienter vers plutôt. Éventuellement spasticité, auto-rééducation, prévention des chutes, voilà, c'est en réflexion.
D'accord. Est-ce qu'il y a des évaluations, comme ton travail de thèse, qui sont prévues sur ces programmes ou...
Alors déjà, il faut qu'ils se mettent en place. Donc c'est plutôt construire le programme et réfléchir sur le programme, et puis on verra après sur l'évaluation a posteriori.
D'autres questions? Spontanément. Moi, il y a une notion que je n'ai pas complètement saisie. Tu dis dans ton travail que la trame, globalement, de chaque programme est assez semblable. J'imagine que, compte tenu des spécificités de chaque pathologie, il y a des adaptations faites dans les trames. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment vous adaptez selon les déficiences des patients, comment vous adaptez vos programmes ?
En fait, je disais que la trame était la même, c'est-à-dire que les patients ont tous, donc le premier atelier, le préambule, qu'est-ce qu'un AVC. Le premier atelier, après, sert à expliquer le trouble cognitif. Donc, pour la négligence, on va expliquer un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il y ait une négligence, quels sont les troubles qui gravitent autour. Donc, c'est des fois la nosognosie, les troubles attentionnels. Pour ce qui est de la mémoire de travail, et ben là, on va expliquer la mémoire de travail. Pour ce qui est de la mémoire épisodique, enfin voilà, c'est le premier atelier, c'est l'explication du trouble. Les autres ateliers, après, se déclinent en mise en place de quelles sont les difficultés que vous ressentez. Donc, il y a des questionnaires après que les patients ont. Quelles sont les difficultés qu'ils vont ressentir au quotidien. Les astuces mises en place ne vont pas être les mêmes. Pour la négligence, il va y avoir des petits... Pour la lecture, où on va demander aux patients de balayer régulièrement la tête. Enfin, c'est des petites astuces au quotidien. Pour la mémoire de travail, il y a différentes astuces qui vont être évoquées. Pour la mémoire épisodique, il y a des moyens mémotechniques aussi qui vont être évoqués. Donc voilà, la trame, c'est... c'est explication des troubles, mise en évidence des difficultés, mise en place des astuces de compensation. Et le dernier atelier, c'est l'ouverture sur le projet de vie par le biais de photo-langage, photo-expression avec des images. Et donc voilà, c'est la trame. Mais bien sûr, le contenu est différent et s'adapte aux troubles cognitifs.
Et les méthodes pédagogiques, elles restent à peu près les mêmes.
Alors les méthodes pédagogiques, c'est vrai que moi j'étais formée à ERED, donc c'est vrai qu'il y a différentes... Il y a le photolangage qui est utilisé. Les méthodes, les astuces à trouver par les patients. Oui, les méthodes restaient les mêmes, en fait. On utilise les mêmes types d'outils pédagogiques adaptés au contenu.
Je crois qu'il y a une question dans la salle.
Pour les patients qui ont assisté à l'éducation thérapeutique, est-ce que vous aviez des critères d'exclusion ?
On n'avait pas de critères d'exclusion. On n'avait pas de critères d'exclusion. En fait, c'était patient majeur qu'on avait objet. Il fallait que le trouble soit objectivé par un bilan. Alors pour certains patients qui ont des troubles cognitifs trop sévères, si les dents n'étaient pas impliquées, on trouvait qu'il n'y avait pas de pertinence à proposer. Donc on ne propose pas des ateliers à tout. À certains patients, on se dit, oui c'est pertinent, mais il faut absolument que le conjoint ou la fille soit présent pour expliquer les troubles des fonctions exécutives. Par exemple, sur le plan comportemental, il y a des choses qui sont voilà, à cerner. Pour certains, c'est... S'il n'y a pas les dents, on ne va pas inclure.
Merci.
Formation des animateurs. Tu as été formé par l'ERET. Les 5 personnes notamment formées avant 2012, avant le début du programme, ont aussi été formées par l'ERET.
Alors l'ERET a largement formé après 2012. Avant, il y avait des formations de 40 heures par d'autres organismes. C'est vrai qu'il y a une facilité parce que l'ERET, on est très satisfait. Les intervenants sont de qualité, une facilité d'accès parce que c'est à Hérouville aussi. Donc après, on a beaucoup. Puis bon, Eliane Faguet faisait partie du membre du comité de pilotage, donc c'est vrai qu'on connaissait aussi les personnes en interne. Donc on a les patients là maintenant, les thérapeutes ont été largement formés depuis 2012 par ERET. Là maintenant, je pense qu'on n'a plus beaucoup de personnels qui ne sont pas formés à Aulnay-sur-Odon. Avant 2012, oui, les quelques personnes n'étaient pas formées par ERET, c'était par d'autres formations.
D'accord. Et concernant, tu parlais d'échelle, du manque d'échelle plutôt pour un petit peu plus spécifique aux troubles. Je suppose qu'il y a de l'éducation thérapeutique qui se fait ailleurs sur ces troubles-là. Est-ce que tu sais s'il y en a déjà qui se fait dans d'autres régions ?
Alors, pour certains programmes, il y a les critères d'exclusion, c'était les troubles cognitifs. Donc voilà, nous on trouve que c'est pas évident des patients qui ont des troubles cognitifs et les inclure dans des programmes. Donc j'ai pas trouvé d'études sur qui faisaient sur les troubles en post-AVC sur les troubles cognitifs.
Tu as tout.
Ouais, j'ai plutôt vu des gens qui disaient bon, troubles cognitifs. Exclusion. Parce que difficulté de compréhension, parce que je trouve qu'il y a c'est un vrai challenge, je pense.
D'accord. Et la mise en place du coup d'une échelle plus spécifique, ça fait partie des challenges de l'équipe ou... ou pas.
Je me pose des questions, hein, si en effet on revient sur les critères d'évaluation des programmes, est-ce que ça passe par. Est-ce que c'est sur la qualité de vie Moi, je pense que, en tant que médecin, on est dans la clinique et en lisant des ouvrages, certains disaient qu'il manquait des personnes, mais qui étaient référents pour l'évaluation psychosociale et des gens qui faisaient que ça, qui travaillaient là-dedans. Et nous, en tant que cliniciens, est-ce qu'on a... Je pense que c'est une réflexion, c'est pas juste une échelle à trouver, je pense qu'il y a une vraie réflexion avec des gens qui sont formés sur le plan social, sur le plan politico-social, et pour travailler sur ces critères-là. Et je pense que c'est plutôt des gens qui sont... Je pense pas qu'en tant que... Je sais pas si en tant que médecin, on va sortir une échelle et... Voilà, je pense qu'il faudrait peut-être plus des professionnels dédiés sur ces critères... critères d'évaluation.
Des gens du milieu de la réinsertion.
De la réinsertion...
La réinsertion sociale, réinsertion...
Peut-être...
Au sens large.
Pourquoi pas. Peut-être.
Et dans tes tests, tu montres, comme dans la littérature, que... Finalement, le TP n'a pas tellement amélioré au niveau du fardeau des aidants. Quelles sont les pistes d'amélioration que vous envisagez pour justement améliorer les aidants et aider mieux les aidants ?
Je pense que le fardeau, il est là, mais qu'on n'a pas réussi à le mettre en évidence. Tout le sentiment de culpabilité, c'est dur à évoquer pour l'aidant et il ne se permet pas, lors des échelles, de dire... des fois, je remplissais avec certaines personnes, je dis tout va bien, non, je ne veux pas marquer ça, il n'y a aucun problème. Donc, je pense que l'échelle, encore, c'est une problématique de culpabilité, de se permettre de dire que c'est difficile à la maison, au quotidien. Je pense que c'est. Alors, certains ateliers d'éducation thérapeutique ont débouché sur un suivi individuel avec une neuropsychologue pour certains aidants. Donc voilà, déboucher sur certains suivis, faire des ateliers de groupe d'aidants, enfin leur donner la parole, je trouve que ça les met, ça valorise, et c'est-à-dire, oui, vous êtes là, oui, vous travaillez avec le patient, avec l'aidant, on travaille avec vous, on peut vous donner une place aussi. Donc je pense valoriser leur place, les écouter, ils en sont déjà ils sont très satisfaits.
Donc meilleure écoute, plus de...
Donc meilleure écoute, un suivi des fois. Voilà, il y a un patient là qui a bénéficié d'un atelier sur les troubles des fonctions exécutives pour son épouse. Et ça a débouché sur un suivi, un suivi psychologique avec notre neuropsychologue. Éventuellement des ateliers dédiés aux aidants. Je pense que ça peut être en effet intéressant de mettre ça en place. Ça pourrait être intéressant également dans ce sens-là pour les valoriser et mettre... travailler davantage avec eux.
On pense au bien-être des patients en pensant à leur entourage, à leurs aidants. Tu as d'autres questions, André ?
On a parlé du médecin traitant, on a parlé des professionnels dans le centre, on a parlé des aidants, du patient. Quand les patients sont à domicile, il n'y a pas que le médecin traitant qui intervient, il n'y a pas que des aidants, il peut y avoir aussi d'autres professionnels, des auxiliaires de vie, des infirmières à domicile. Quelle est la place que vous imaginez de ces personnes-là au sein du programme ?
Je répondrai d'abord que, en fait, à domicile, il y a aussi, c'est un vrai réseau médico-social, donc je dévierai un petit peu. Je suis médecin de ce qu'on appelle le service d'accueil médico-social pour les adultes handicapés, le SAMHSA, service d'accompagnement, pardon. Donc on est à un autre stade, donc c'est un service qui accompagne les patients à domicile avec un groupe de thérapeutes. Et par ce biais-là, on pourrait éventuellement encore déboucher sur des demandes d'éducation thérapeutique. Après, l'intégration des professionnels au quotidien, je pense que ça me paraît compliqué, ils ont leur travail au quotidien, mais voilà, par ce biais de réseau, moi je sais que j'ai des contacts, enfin, je ne vois pas tous les patients, mais en étant au SAMHSA, donc de la Manche, je travaille avec encore une équipe de thérapeutes qui sont, eux, au contact de l'infirmière, de l'auxiliaire de vie, et qui peuvent retransmettre et remonter les difficultés, et après on retravaille ensemble. Donc il y a vraiment ce que je trouve riche un peu dans notre travail, c'est ce réseau qu'on essaie de tisser entre les différentes structures cliniques, sanitaires, médico-sociales, et que tout le monde, tout ça s'imbrique et qu'on puisse transmettre et discuter tous ensemble et faire remonter.
Et faire remonter.
Des problématiques, des difficultés. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous. Le docteur Jokic, qui est à Aulnay-sur-Odon, est également médecin du SAMSA 14. Moi, je suis à Aulnay-sur-Odon, je suis médecin du SAMSA 50. On fait des réunions médico-sociales entre SAMSA. Donc, il y a vraiment un échange et on échange les problématiques. Et donc, on peut réadresser tel patient. On peut se dire, bon, ça peut être intéressant pour l'éducation thérapeutique. Après, on s'échange. Il y a des réunions d'échange. Donc, il y a vraiment une filière, un réseau qui est créé au niveau Bas-Normand et qu'on essaye de mettre en place pour suivre. Parce que c'est vraiment ça qui permet de progresser, de travailler, je pense, dans de bonnes conditions. Et la richesse des échanges, je trouve que est au mieux pour que le patient ait le maximum de bénéfices.
Et qu'est-ce qui est prévu pour les patients donc, qui ont fait du coup le programme avec un certain nombre de séances? Est-ce qu'il est prévu un programme niveau intermédiaire avancé pour poursuivre l'éducation thérapeutique?
Alors après, on revoit les patients à distance. Pour l'instant, il n'y a pas eu Enfin, si, à la suite de l'entrevue d'évaluation, après, peut déboucher sur « Ah, bah peut-être on peut penser à l'activité physique maintenant. » Et donc, en effet, on peut réadresser après. Et c'est pour ça que le patient ne perd pas… Enfin, l'idée, c'est de ne pas perdre le lien, quoi. Et suite à la consultation d'évaluation, à 3 mois, ben voilà, certains patients étaient réadressés dans d'autres thématiques de prise en charge. Éventuellement, ça peut s'entendre qu'à distance, ils puissent refaire la même thématique du fait des troubles cognitifs. Ça pourrait être aussi intéressant à distance, suite à une prise de conscience des difficultés, des troubles cognitifs. Donc, oui, il y a toujours possibilité de revenir ou d'être réadressé dans une autre thématique, en effet.
D'accord.
Donc les patients bénéficient de plusieurs parcours, parce que dans l'éducation thérapeutique, pour les maladies chroniques, ils ont droit à un parcours, je crois. Et quand ils ont fait leur parcours, en fait, ça s'arrête et il n'y a pas de suite.
Alors, quand vous dites qu'ils ont droit, là concrètement, les patients, quand ils viennent, ils participent, ils déboursent rien, donc ils peuvent... je ne sais pas exactement ce qu'il en est pour les maladies chroniques. Je sais qu'il n'y a pas de participation financière. Hein, les gens,
Pour les ateliers, oui.
Ah oui.
Ils participent à une hauteur de 8 euros par atelier. Donc,
Alors ça, parce que pour les ateliers qu'on a mis en place, il n'y a pas de participation financière.
D'accord.
Donc, il n'y a aucun problème pour qu'ils puissent réintégrer. C'est la problématique, c'est de notre côté, c'est pour détacher du temps de thérapeute, parce qu'il n'y a plus de temps de financer pour les thérapeutes. Donc le temps où ils sont dédiés sur l'éducation thérapeutique qui n'est pas financé, c'est un temps où ils ne sont pas avec les patients du service. Mais bon, on s'en accommode et on essaye de travailler quand même, parce qu'on se dit que ça apporte vraiment une plus-value pour le patient et l'aidant. Mais ils peuvent, sans problématique financière, puisqu'il n'y a pas de...
D'accord.
Venir plusieurs fois dans plusieurs programmes.
D'accord. Parce que pour les maladies chroniques, quand ils font un atelier, donc soit activité physique, sophrologie, puisque moi j'interviens en sophrologie, c'est pris en charge par les RET, mais ils participent à ces ateliers. Après, est-ce que c'est que pour les maladies chroniques? Je ne sais pas.
Oui, je ne sais pas non plus.
Ouais. Et est-ce que la sophrologie pourrait pas avoir aussi un intérêt pour le parcours thérapeutique?
Tout à fait. Hein, dans le cadre de développement de compétences d'adaptation, je pense que ça pourrait tout à fait avoir tout son sens. Des perspectives, hein, pourquoi pas.
Une dernière question. Du tout. On va te laisser conclure peut-être sur un message que tu auras envie de conclusion, tu as envie de faire passer sur un...
Je trouve que c'était intéressant déjà de participer à ces ateliers, conférences, thèses en poche. Je reviendrai quand même sur mes deux prédécesseurs, le docteur Vigo, parce que j'ai pu revisionner, parce que c'est intéressant parce que les conférences sont enregistrées, donc j'ai pu revisionner la place de l'infirmier dans la prise en charge des urgences coronariennes, et puis celle du docteur Jourdan sur la place du curcuma dans la maladie d'Alzheimer. Donc je trouve que c'est une idée très intéressante. Et puis, Et puis je trouve que l'éducation thérapeutique, pour terminer, c'est un sujet d'avenir. On voit qu'il y a un vrai intérêt sur la place de l'aidant. Il y a eu un vrai engouement pour les professionnels qui trouvent un vrai bénéfice. Ce que vous avez évoqué, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire, à développer, à mettre en place. Toute cette dynamique est riche et on s'y implique activement. Donc, voilà. Merci.
Eh ben, merci pour ton engagement. Et bonne fin de soirée à tous.